Pour les quatre vérités, ce matin, Roland Sicard reçoit Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
On va commencer par un sujet un petit peu inhabituel pour vous, le cinéma. Le film The Artist a remporté un véritable triomphe. Est-ce que la candidate internationaliste que vous êtes pousse un petit cocorico bien français ce matin?
Non, je ne vois pas pourquoi, non. Non, j'ai vu le
film français qui a gagné.
J'ai vu que c'était une réussite. Maintenant, je sais aussi que ce film est en fait franco-américain. Il a été tourné aux États-Unis avec des techniciens américains, techniciens qui sont quand même très très utiles, n'est-ce pas, pour faire le film. Donc tout ça, c'est une réussite collective. Voilà, je crois que s'il y a quand même un secteur qui est très internationalisé et qui s'inspire de ce qui se fait dans les différents pays et de toute l'histoire du cinéma, c'est bien justement ce secteur-là, le secteur du cinéma. Donc non, je crois que c'est une réalisation avant tout collective.
Oui, c'est une réussite. Pas d'abord un succès français?
Non, écoutez, c'est le succès de voilà. C'est vrai que c'est une alchimie qui a bien fonctionné dans ce film et bon, c'est très bien. Moi, j'ai eu du plaisir effectivement à le voir.
Mais un succès français, ça vous émue pas un petit peu?
Non, mais je vois pas pourquoi. En réalité, moi, ce que je vois, surtout, c'est les influences. Voilà, c'est le résultat de cela. On n'est pas tout seul dans notre petit village gaulois, n'est-ce pas? Ce film a jailli comme ça du génie, du génie gaulois. C'est pas vrai. C'est le résultat, je vous le dis, d'échanges, voilà, c'est ça la réalité.
Alors on va redevenir plus gaulois, si j'ose dire, avec le salon de l'agriculture. Tous les candidats y vont, pas vous. Pour quelle raison?
Parce que je ne tiens pas effectivement à faire tout un cinéma médiatique. Je ne crois pas que c'est comme cela qu'on peut s'adresser aux agriculteurs et surtout aux petits agriculteurs. Je réponds à toutes les invitations, à toutes les interviews et je cherche à m'adresser, oui. Aux petits agriculteurs, je sais qu'un grand nombre vivent comme bien des travailleurs, comme bien des ouvriers, comme bien des salariés, avec la difficulté, y compris de se verser ne serait-ce qu'un SMIC à la fin du mois, qu'ils sont coincés bien souvent entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les grands distributeurs, les transformateurs qui imposent leurs prix. De l'autre côté, les semenciers, les fournisseurs de bétail. Et que tout ça conduit effectivement à ce que... Un certain nombre n'arrivent même pas à vivre de leur travail. Donc tout ça, je le dénonce. Je pense que il faudrait faire la lumière sur toute cette filière agricole, voir qui se met les marges en poche, parce que bon, on le voit bien, nous, en tant que consommateurs, quand on voit un kilo de pomme à 2 euros et qu'on sait qu'elle est vendue 50 centimes ou 40 centimes, on voit bien qu'il y a un problème dans cette filière agricole. Et donc beaucoup de choses, effectivement, à changer.
Et les candidats qui défilent au salon, vous diriez que c'est du cinéma? Sans jeu de mots par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, c'est la campagne électorale, donc ils vont serrer effectivement les mains, faire un petit peu de publicité, faire beaucoup de démagogie, voilà. Donc moi, c'est effectivement ça ne m'intéresse pas.
Dans cette campagne, on assiste à un phénomène important. Il y a beaucoup d'usines qui sont sauvées, comme le Jabi, comme Photowatt par exemple. Est-ce que vous dites merci à la campagne électorale?
Beaucoup, ça en fait deux.
Donc, il y en a d'autres.
Ça en fait deux. Et si vous voulez, moi, je suis assez choquée qu'on monte justement ces deux cas en épingle, tout en sachant d'ailleurs que...
Tant mieux pour eux.
Très bien pour les ouvrières de Le Jabi. Mais vous savez que chez Le Jabi, il y a encore 350 autres ouvrières qui sont toujours sur le carreau. Et en réalité, des entreprises qui ferment, c'est tous les jours. On a appris là, en fin de semaine, qu'une usine de tissage à Saint-Junien, avec 130 ouvriers et ouvrières, allait fermer encore pour que le groupe rapatrie sur Célesta la production pour faire plus de productivité. Eh bien voilà, encore une fois, des travailleurs mis sur le carreau, sur l'autel des profits d'un groupe qui en veut toujours plus. Et ça, c'est le lot quotidien aujourd'hui de milliers de travailleurs. Je peux vous faire la liste des usines qui sont en train de, qui ferment. Merck, Fralib, je pense à Sodi Medical aussi, à ses 55 ouvrières près de 3. Mais la liste, elle est énorme. Vous comprenez, c'est une usine qui ferme tous les jours depuis 3 ans. Une usine par jour depuis 3 ans. Le gouvernement laisse faire les licencieurs, il laisse faire les fabricants de chômeurs. Donc, c'est ça le problème.
Vous l'accusez aussi lui-même de procéder à des suppressions d'emplois dans la fonction publique.
Ah bah c'est la réalité, hein. Ils s'en vantent. 150 000 emplois de moins, c'est le plus grand licencieur du pays. Voilà, tout simplement. Et après on va s'étonner effectivement que les jeunes ne trouvent pas de boulot. Hein, alors qu'il y aurait de quoi effectivement embaucher dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence qui sont en train d'exploser littéralement là en ce moment avec la grippe. Donc oui, bien sûr que il y a des fabricants de chômage et moi je pense que justement c'est cela qu'il faut empêcher de nuire en leur interdisant tout simplement.
François Hollande fait une proposition. Il dit que lorsqu'un patron ferme une entreprise, il puisse pas empêcher cette entreprise d'être reprise par un autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition?
Alors d'abord, moi, je crois que, voilà, on est en période électorale, c'est le temps des promesses. Voilà, c'est vraiment le temps des promesses.
Mais sur l'idée en elle-même.
Oui, non, mais attendez, on va pas non plus être naïf. Hein, on va pas non plus être naïf. Je crois que personne n'est dupe quand même. Hein. Une fois arrivé au gouvernement et installé à l'Élysée, eh bien, les promesses, elles s'envolent. Là, en l'occurrence, cette loi qui dit qu'il faut forcer les entreprises à céder hein, leur site à d'autres, je crois que c'est l'exemple même d'une promesse en l'air. Parce que s'il n'y a pas de repreneurs, qu'est-ce qui se passe?
Mais s'il y en a un.
Ah, bah, s'il y en a un, parfait, très bien. Mais vous savez, des reprises souvent de ce genre de groupe, c'est avec un tiers, avec un dixième des salariés, et on se dit, ah voilà, il y a eu un repreneur. Non, le problème, c'est surtout, c'est des mesures conservatoires qu'il faut prendre en ce moment, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait de nouveaux chômeurs qui se rajoutent aux millions de chômeurs qu'il y a. Donc moi je crois qu'il faut forcer là ArcelorMittal, qui est un groupe richissime, 40 milliards, vous vous rendez compte, de profit sur les 5 ans, il faut le forcer à garantir les emplois sur ce site. Est-ce que vous pensez qu'un petit entrepreneur va aller investir sur cette aciérie-là? C'est pas vrai. ArcelorMittal, il monopolise, il contrôle complètement le secteur de l'acier, c'est le roi de l'acier. Personne ne va aller marcher sur ces plates-bandes, ça c'est pas vrai. Donc il faut forcer effectivement ArcelorMittal à préserver cette aciérie, à la faire tourner en répartissant l'activité sur tous ces sites. Alors ça imposera de prendre un petit peu sur ses profits, de rogner un petit peu sur ses profits, mais c'est cela qu'il faut faire. Il faut l'obliger, le contraindre, l'interdire effectivement de fermer ce site.
PSA, il y a du chômage partiel à Aulnay. Est-ce que vous pensez que cette usine va fermer après la présidentielle, comme le craignent les syndicats?
Ils le craignent à juste titre. En réalité, la fermeture est programmée. Elle est programmée déjà depuis plusieurs années. C'était un plan qui était gardé secret, qui a été dévoilé en juin dernier. Et tout montre qu'effectivement, là, la direction de PSA, Philippe Barin, est en train de vider effectivement l'usine, est en train de transférer sa production sur d'autres. Et vous savez, au moment même où on impose du chômage partiel pour les ouvriers d'Aulnay, il y a d'autres ouvriers à Poissy ou à Mulhouse qui travaillent avec des cadence insupportable, qui doivent faire des heures supplémentaires. Donc là, il y a un véritable problème. Il faudrait, là encore, répartir en réalité le travail entre toutes ces entreprises de façon à ce que chaque ouvrier puisse préserver son emploi et son salaire. Cela voudrait dire rogner, prendre sur les profits de ces grands groupes. Mais vous comprenez, prendre sur les profits, forcer ce grand patronat à lâcher de l'argent pour préserver les salaires et la vie des travailleurs, eh bien ça, aucun des futurs prétendants à l'Élysée, que ce soit Hollande ou Sarkozy, évidemment, Sarkozy sert la soupe au patronat depuis bien longtemps, aucun d'entre eux ne veut le faire, ne veut les contraindre et les obliger, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire.
Question très différente. J'ai lu que chez Lutte ouvrière, on n'avait pas le droit de se marier, on n'avait pas le droit d'avoir d'enfants pour préparer la révolution. C'est vrai ou c'est une légende?
Écoutez, c'est une légende et vous feriez bien de venir à toutes nos activités, à nos fêtes et vous verriez donc tous les enfants.
Je suis déjà marié.
Et toute la jeunesse. Et voilà, peut-être trouver même une âme sœur. Non, mais écoutez, nous sommes d'une tradition où effectivement, nous préférons l'union libre au mariage. Ça, c'est une grande tradition du mouvement ouvrier. Vous savez, c'est pas nouveau. Mais après, non, nous militons pour une société plus libre, justement, où chacun pourra déjà préserver son droit à l'existence et être véritablement libre, bien sûr.
Merci, Nathalie Arthaud. C'est à vous.
Merci, Roland. Vous êtes invité, donc.
Oui, hein, je suis content.
Ah, bien. Bonne journée à vous. On va passer à la météo dans quelques instants avec Myriam Seurat.